Bonjour à tous. Après notre série sur la confiance en économie, nous vous proposons comme chaque vendredi une table ronde d'actualité économique consacrée aujourd'hui au marché de l'énergie. Les salariés et les syndicats sont toujours vent debout contre le projet Hercule de réorganisation d'EDF, un projet qui semble faire l'unanimité contre lui. L'opposition dénonce une privatisation du producteur historique et un démantèlement contraire aux intérêts de l'entreprise et des consommateurs. De son côté, Bruxelles demande une plus grande ouverture du marché à la concurrence. Alors est-ce la fin du service public de l'électricité? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de l'avenir d'EDF et de la filière nucléaire française, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Jacques Percebois, économiste, professeur à l'Université de Montpellier. Anne Debréjas, chercheuse à EDF Recherche et Développement et porte-parole de Sud Énergie. Et Quentin Derumeau, directeur du département énergie et environnement du cabinet de conseil SIA Partners. Une émission à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.
Quand un orage obscurcit le ciel sur la ville, la consommation d'électricité s'accroît soudain. Les installations modernes sont suffisamment souples pour permettre d'augmenter rapidement la production d'électricité en cas de nécessité. Quelles que soient les variations de la demande de courant électrique dans une grande ville, les ingénieurs peuvent adapter la production selon les besoins grâce à des machines au fonctionnement très sûr, les turbogénérateurs. Nous nous servons si souvent d'électricité, nous la considérons comme toute naturelle. Bien des choses que nous voyons autour de nous, bien de nos activités, dépendent entièrement de l'énergie électrique abondante dont nous disposons. Si elle venait soudainement à manquer, nous nous trouverions d'un seul coup rejetés dans un siècle passé.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'être Bonjour. Avec nous aujourd'hui. On vient d'entendre une archive du 1er janvier 1946 qui nous rappelle l'importance de celle qu'on appelait la fée électricité. Aujourd'hui, beaucoup redoutent la fin du monopole public d'EDF. Une deuxième journée de grève a eu lieu hier contre le projet Hercule. Expliquez-nous, Anne Debréjas, les raisons de cette mobilisation, vous qui êtes porte-parole de Sud Énergie.
Eh ben en fait, ce projet Hercule s'inscrit, c'est pas tellement le projet Hercule en lui-même qui est un problème, c'est tout le processus qui est à l'œuvre depuis maintenant 20 ans, hein, où on a déconstruit de manière méthodique ce qui, effectivement, avait été construit, comme le rappelle l'archive, par le Conseil national de la résistance en 1946, qui était un monopole public, qui fonctionnait plutôt très bien. Alors, bon, on peut toujours y apporter des critiques, mais globalement, c'était tout le monde reconnaissait le succès, y compris ceux qui étaient en train de libéraliser en Angleterre, par exemple. Et pourtant, suite à une directive européenne qui date de 1996, on a donc libéralisé, ouvert à la concurrence le marché. Donc maintenant, on a 20 ans de recul. On voit que c'est un échec. Je pense que la promesse initiale de baisse des prix n'est pas tenue et plus personne n'ose dire que une baisse des prix est espérée. Aucune justification n'est apportée, mais on nous demande une fois de plus de continuer d'aggraver ce marché, de continuer à démanteler EDF. Et c'est pas une réorganisation simplement de l'entreprise, mais vraiment une mise à mal du service public qui, encore une fois, est déjà très abîmé par rapport à ce qu'il était dans les années 80. Mmh. Et ça ne peut pas. Enfin, la mise en concurrence du système électrique, c'est vraiment une vue d'esprit. Ça ne peut pas marcher ni sur le papier parce que le système électrique est un monopole naturel. Par principe, ça je pourrais y revenir si vous voulez.
On y reviendra en effet.
Ni dans les faits, parce que je pense qu'on y reviendra aussi, le bilan de la mise en concurrence est vraiment très mauvais sur tous les aspects.
Jacques Percebois, il faut voir ce projet Hercule comme la dernière étape d'un long processus de libéralisation, d'ouverture à la concurrence de ce marché de l'énergie.
Oui, c'est en effet la conséquence d'un long processus. Alors il faut comprendre que en fait, le monopole d'EDF n'existe plus. De fait de la directive de 1996 dont on a fait mention, depuis le 1er janvier 2000, certains consommateurs peuvent choisir leur fournisseur, donc EDF n'est plus en position je dirais, de monopole. Et la Commission européenne, je dirais, qui a mis en place ce système avec l'accord des États, il faut bien voir qu'il y a l'accord des États derrière, c'est surtout appuyé sur l'expérience des télécoms. Il faut comprendre qu'au départ, l'idée, c'est la libéralisation a fonctionné pas trop mal dans les télécoms, ça devrait marcher dans l'électricité. En fait, l'électricité, c'est un produit tout à fait différent parce qu'une grande partie de l'activité reste, par la force des choses, régulée du fait de l'existence de réseaux. On pourrait y revenir, c'est ce qu'on appelle en effet des monopoles naturels. Donc il faut voir que la concurrence, elle est très largement artificielle. Et donc on est obligé à chaque étape, je dirais, de mettre un élément supplémentaire régulé pour que la concurrence fonctionne un peu. Alors si on regarde le bilan, c'est vrai que pour le consommateur final domestique, le gain en 20 ans de libéralisation est modeste. Hein, c'est des études montrent qu'en moyenne, si on compare les prix de l'électricité entre les 80 fournisseurs qui existent aujourd'hui en France, dont la moitié pour le secteur domestique, le gain est entre 40 et 50 euros par an, ce qui est quand même pas tout à fait exceptionnel. Alors, la Commission européenne est obsédée par deux choses. Séparer les activités, parce qu'il y a plusieurs activités dans l'électricité. Il y a la production, le transport, la distribution, la fourniture. Et donc, on considère que la production et la fourniture sont des activités qui peuvent être ouvertes à la concurrence, parce qu'il peut y avoir plusieurs producteurs et plusieurs fournisseurs. En revanche, l'activité de transport et de distribution sont des activités régulées par nature, puisque ce sont ce qu'on appelle des monopoles naturels. On ne va pas dupliquer des réseaux inutilement. Donc l'obsession de la Commission européenne, c'est de séparer les activités, de sorte qu'EDF aujourd'hui a des filiales qui s'appellent RTE, qui s'appellent Enedis, mais ce sont des filiales. Il faut que ce soit des entreprises séparées. Mmh. Et la deuxième obsession de la Commission européenne qui explique, je dirais, à la fois le mécanisme de l'AREN, à la fois le projet actuel, c'est que aux yeux de la Commission européenne et des partisans de la libéralisation, il faut absolument que l'opérateur historique perde des parts de marché, si vous voulez. Le critère, en quelque sorte, du succès, c'est pas le gain du consommateur, c'est il faut que l'opérateur historique perde des parts de marché. Ce qui est le cas. Aujourd'hui, EDF ne fournit que 75% de l'électricité du secteur domestique, à peu près 75%. Par contre, EDF fournit un tout petit peu plus de 50% pour les professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le volume d'électricité acheté par les professionnels en France, 48% en fait est acheté à des concurrents d'EDF. Et c'est acheté souvent avec une compétition qui est artificielle, parce qu'en fait, c'est la même électricité qui est produite par EDF, mais qui est vendue à un tarif particulier à ses concurrents.
Alors, EDF a perdu des parts de marché. Effectivement, il va falloir expliquer un petit peu comment. Mais d'abord, Quentin de Rumeau, je voudrais vous faire réagir à ce qui vient d'être dit sur cette idée d'un marché, le marché de l'électricité, où la concurrence serait faussée. Quelle est votre opinion là-dessus ?
Moi, ce que je dirais, c'est... Sur cette question de la concurrence, on a une commission, enfin je pense que Jacques Percevoix l'a décrit un peu comme telle, on a une commission européenne qui aujourd'hui la considère plutôt comme un totem, alors qu'elle est quand même un outil. Elle est un outil pour aider parfois des consommateurs, notamment industriels ou entreprises, finalement à s'approprier la question de l'énergie, à se poser plus de questions aussi sur comment est-ce qu'ils consomment et à évoluer sur ce terrain-là. Aujourd'hui, sur le marché de la fourniture d'électricité, si vous prenez une facture, le terme sur lequel il y a une forme de bagarre concurrentielle, c'est essentiellement les coûts de commercialisation, de distribution et la marge nette que vont faire les commercialisateurs.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que dans une facture d'électricité, vous allez avoir des taxes. Ça, c'est un terme qui est réglementé et qui est le même pour tout le monde. Vous allez avoir des tarifs d'utilisation des réseaux qui sont réglementés et qui sont finalement aussi pas l'objet d'une concurrence, qui vont représenter entre 40 et 50% de la facture. Et sur le reste, qui va être l'électron, finalement, et votre contrat de fourniture, dedans, vous allez avoir un approvisionnement, qui est la part prépondérante de cette partie fourniture, quelques termes qui servent à faire des couvertures, et puis vous allez avoir un coût qui correspond au fait qu'on a eu besoin de faire du marketing, de vous envoyer des factures, que vous avez une relation client qui est disponible, qu'il y a tout un ensemble de services qui sont disponibles pour commercialiser ces produits-là. Mmh. Aujourd'hui, sur la partie approvisionnement, donc vraiment sur le prix de l'électron en tant que tel, quand un fournisseur alternatif a la possibilité d'accéder à l'AREN, En fait, ça représente à peu près 80-85% des électrons qui sont consommés par par un consommateur
alors,
résidentiel.
Il va falloir qu'on explique un certain nombre de choses pour parfaitement vous comprendre, Quentin de Rumeau, et notamment ce mécanisme de l'AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il faut expliquer qu'il a été mis en place, cette AREN, Jacques Percebois, pour remédier, enfin plus exactement partager la rente nucléaire. Expliquez-nous d'abord peut-être... Pourquoi est-ce qu'on parle d'une rente nucléaire ?
Ah, alors, c'est parce que c'est quelque chose d'historique. Il se trouve que j'étais dans la commission Champsaur, qui est la commission qui a proposé ce mécanisme qui a été mis en place par la loi NOM, Nouvelle Organisation du Marché de l'Électricité, en 2010. Alors, pour comprendre, je dirais, la nécessité d'introduire ce mécanisme, il faut savoir qu'il y avait une menace de la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que quand on a ouvert le marché à la concurrence au 1er janvier 2000, les choses se sont pas trop mal passées pour les gros industriels. À l'époque, seuls les gros industriels pouvaient acheter, je dirais, pouvaient choisir leur fournisseur et acheter de l'électricité à un autre fournisseur qu'EDF. Il se trouve qu'à ce moment-là, ils avaient accès à de l'électricité thermique, c'est-à-dire faite avec des centrales au... Il y avait encore quelques centrales au fioul, des centrales au charbon, des centrales à gaz, et le prix du pétrole était très bas. Donc le prix du gaz était très bas, donc le prix de l'électricité sur le marché de gros, si vous voulez, l'électricité thermique, était compétitif par rapport au nucléaire. Les choses vont changer à partir de 2004 quand le prix du pétrole va monter. À ce moment-là, les concurrents d'EDF se sont retrouvés avec de l'électricité sur le marché ou de l'électricité qu'ils produisaient avec des centrales thermiques qui étaient beaucoup plus coûteuses que le nucléaire historique. Pourquoi ? Parce que les centrales nucléaires qui avaient été construites en 20 ans, les 58 réacteurs de l'époque, hein, et ce nucléaire avait été en partie remboursé, le nucléaire était donc amorti et donc EDF avait un avantage comparatif. Et donc, Bruxelles a menacé la France, je dirais, d'obliger EDF à vendre une partie de ses centrales. Évidemment, on peut pas vendre des centrales nucléaires à n'importe qui. Je signale que d'autres opérateurs, notamment en Italie, ont été obligés de vendre une partie de leurs centrales.
Donc l'AREN a été mis en place pour empêcher cette vente de centrales nucléaires, Jacques Percebois.
Alors, on pouvait pas vendre le nucléaire parce que les centrales nucléaires, c'est quand même un produit particulier, c'est l'intérêt national. Donc, il fallait trouver un substitut. Donc, l'idée, c'était la suivante, et c'est le mécanisme qui a été mis en place, la commission a rendu son rapport en 2009, il a été mis en place en 2010, c'est l'idée suivante. Puisque les concurrents d'EDF n'ont pas la possibilité de produire de l'électricité nucléaire et ont un prix de l'électricité qui leur revient plus cher que le nucléaire, on va obliger EDF à vendre une partie. Alors la partie, c'est 25%, c'est-à-dire 100 TWh sur l'époque, on en produisait 400. On va obliger EDF à vendre 100 TWh à prix coûtant, c'est-à-dire pas au prix du marché, c'est-à-dire au prix auquel ça revient à EDF. Donc si vous voulez, il y a eu une deuxième commission Champsaur où on a été chargé de trouver ce prix, donc on a fait une proposition au gouvernement. Finalement, je passe sur les détails, le gouvernement a retenu 40 euros en 2011, fin 2011, et 42 euros à partir du 1er janvier 2012. Je signale que c'est toujours le prix en vigueur d'ailleurs. Si bien que les concurrents d'EDF, avec l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, ont pu vendre de l'électricité nucléaire fabriquée par EDF au prix où ça revenait à EDF, et donc ils jouaient en quelque sorte à armes égales avec EDF, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire des offres de marché qui étaient compétitives.
Mais tout dépend du prix de l'électricité sur le marché de gros, c'est-à-dire que selon qu'il est plus ou moins élevé, cela avantage soit EDF, soit les fournisseurs alternatifs, Jacques Percebois.
Alors pendant une partie du temps, jusqu'en 2015 à peu près, le prix du marché de gros a toujours été supérieur au niveau de l'AREN qui était de 42 euros. Il se trouve qu'en 2016-2017, le prix du marché de gros, pour des raisons qui tenaient à la conjoncture, est passé en dessous du niveau de l'AREN. Donc les concurrents d'EDF ont dit « nous, l'AREN, on n'en veut plus ». Bon, donc ensuite, il est remonté au-dessus, donc ils en ont voulu encore. Et puis, il se trouve que pendant la crise sanitaire, les prix de l'électricité sur le marché de gros, comme la demande était plus faible, eh bien, les prix de l'électricité ont chuté fortement. Et donc, certains opérateurs, certains fournisseurs, à commencer d'ailleurs par Total, et d'autres aussi, ont dit, bah, écoutez, nous, on a signé pour acheter de l'AREN, mais compte tenu des circonstances, on n'en veut plus, on va aller sur le marché. Donc, ils ont invoqué d'ailleurs la clause de force majeure. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils veulent de nouveau de l'AREN, parce que, si vous regardez le prix de l'électricité sur le marché de gros aujourd'hui, il est en moyenne à, je crois, un peu plus de 50, pas loin de 60 euros le mégawattheure, alors que l'AREN est à 42. Hier, on était à 93 euros le mégawattheure en moyenne. Donc les gens s'attendent à ce que pendant cet hiver, au début de l'année prochaine, les prix sur le marché de gros augmentent. Donc ils ont intérêt à demander de l'AREN. Ils en ont tellement demandé qu'ils en ont demandé 146 terawattheures, la commission de régulation qui est chargée de faire le dispatching a dit 146, c'est pas possible, il y a que 100. Donc il faut que chacun réduise ses prétentions, c'est ce qu'on appelle l'écrêtement.
Et donc aujourd'hui, on comprend bien, Jacques Perceval, qu'il y a une forte demande d'arène. Je voudrais entendre tout de même Anne de Bréjat sur cette question, sur les problèmes que pose ce mécanisme de l'arène à EDF.
Oui, parce que ce que décrit Jacques Percebois, on voit bien, c'est un prix de marché qui est extrêmement volatile, qui n'a rien à voir avec les coûts de production de l'électricité, qui sont pour plus de 80% des coûts fixes, donc qui ne dépendent pas de la quantité vendue. Et donc, les prix de marché sont corrélés en fait aux cours mondiaux du charbon, du gaz et de la tonne de CO2. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Évidemment, ça expose d'abord les clients à un risque énorme puisque les prix sont très volatiles. Et pour les producteurs, ça les empêche de rémunérer leurs investissements, quel que soit l'investissement. C'est vrai pour l'investissement nucléaire, c'est vrai pour l'investissement dans l'hydraulique où, par exemple, Jean-Bernard Lévy commence à demander des garanties pour
le patron d'EDF.
S'assurer ses investissements, le patron d'EDF, pardon. C'est vrai pour les énergies renouvelables où ce n'est pas le prix de marché qui rémunère ses investissements, mais ce sont des prix garantis par l'État. Donc on a un prix de marché qui n'a rien à voir avec les coûts, d'une part. Et d'autre part, ce marché, en fait, arrive dans un mécanisme qui est absolument abracadabrant. C'est-à-dire que quand je disais c'est un monopole naturel le système électrique, donc Jacques Percebois dit c'est vrai pour les réseaux. Pourquoi c'est vrai pour les réseaux? Parce que des réseaux, ce sont des moyens qui sont extrêmement lourds en termes de coûts investis. C'est des investissements de très long terme et ce ne sont que des coûts fixes. Donc on les a construits, une fois qu'on les a construits, qu'on les utilise ou pas, ça revient au même. Et en plus, ça a un impact écologique. Mais c'est exactement la même chose pour les moyens de production. La production est un monopole naturel, pareil. On ne va pas s'amuser à construire plus de centrales qu'il n'en faut parce que c'est essentiellement des coûts fixes. Donc une fois que c'est construit, ça coûte pas tellement plus cher de le faire produire ou pas. Et puis, c'est des investissements de très long terme. Et puis, ça a un impact écologique. Donc le système, quand on sait comment fonctionne le système électrique, ça a été dit en début d'émission, c'est un équilibre extrêmement compliqué à faire entre production et consommation à chaque instant. Alors qu'on ne sait pratiquement pas stocker l'électricité et qu'il y a tout un tas d'aléas, ça dépend beaucoup, la consommation comme la production dépendent par exemple beaucoup des conditions climatiques, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui doit être géré de manière intégrée et donc il faut planifier sur le long terme les investissements en moyens de production pour faire en sorte qu'à chaque instant on puisse assurer cet équilibre et à chaque horizon de temps, au moyen terme, il faut s'assurer qu'on ait fait les maintenances au bon moment pour que toutes les structures, tous les moyens ne se retrouvent pas en maintenance au même moment et plutôt moins en hiver où on consomme plus. Et au court terme, il faut à chaque instant aussi déterminer lequel produira pour maintenir ça. Donc c'est un monopole, la production est un monopole aussi. Donc finalement, qu'est-ce qui reste en concurrence? Et c'est exactement ça qu'essaye de faire maintenant la Commission européenne avec le projet Hercule, c'est développer la concurrence dans un tout petit morceau qu'on appelle la fourniture, qui représente aujourd'hui 4% des coûts totaux du système. Donc on ne joue que sur 4% des coûts totaux du système. La fourniture, c'est défini partout, y compris dans Wikipédia, ça consiste à acheter de la production sur les marchés ou par d'autres mécanismes pour les revendre aux clients. Même pas les faire transporter, hein, ça c'est le distributeur de réseau qui s'en charge. Donc il n'y a absolument rien à faire, c'est effectivement... Comme l'a expliqué l'autre interlocuteur dont j'ai oublié le nom, excusez-moi.
Quentin de Rumeau, c'est acheter,
faire effectivement du trading sur les marchés si besoin, faire du démarchage, c'est beaucoup une activité de démarchage, et puis faire de la facturation. Mais ça c'est une activité qui n'existait pas du temps du monopole, donc on a rajouté une activité. Et juste pour finir...
Oui, rapidement, parce que je voudrais faire intervenir Quentin de Rumeau, justement. Oui.
Quand on dit qu'il y a eu 5% de réduction sur les factures, c'est pas vrai du tout, hein. Il y a 5% de réduction pour un client qui quitte le tarif réglementé. Donc le tarif qui existait avant, qui existe encore pour la plupart des clients, réglementé par l'État, pour aller vers un fournisseur, en offre de marché. 5%. Mais dans le même temps, on a, par la loi, augmenté ces tarifs réglementés. Ça a été contesté par l'autorité de la concurrence, ça a été contesté par l'association de consommateurs. Le principe maintenant des tarifs réglementés de vente, c'est un principe de contestabilité, c'est-à-dire qu'il est écrit dans les textes que le tarif réglementé de vente doit être fixé de manière à laisser une place aux fournisseurs alternatifs pour pouvoir proposer des offres moins chères. Donc on a augmenter les tarifs réglementés pour permettre la concurrence. Et c'est ce qui a conduit, par exemple, aux fortes hausses qu'il y a eu en 2019, là, près de 8%, 4% l'année dernière. Là encore, c'est documenté, c'est écrit que ce n'est pas les coûts qui ont augmenté, c'est simplement le marché, c'est pour permettre la concurrence.
On comprend bien que c'est extrêmement...
Et les augmentations, c'est 60%.
On va faire tourner un petit peu la parole, Anne de Bréjas. On comprend bien que c'est extrêmement compliqué de cette ouverture à la concurrence et que elle a nécessité la mise en place de mécanismes complexes comme l'AREN qui est contesté par les uns et par les autres. Quentin de Rumeau, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet de l'AREN et de ce que cela a permis pour les producteurs, les fournisseurs alternatifs d'électricité?
Ça leur a, Jacques Percevoix l'a très bien décrit tout à l'heure, ça leur a donné une facilité à prendre des parts de marché en faisant des offres qui devenaient plus compétitives, ou en tout cas plus facilement compétitives par rapport aux tarifs réglementés de vente. Ça leur a apporté une certaine sécurité avec une relative asymétrie dans le dispositif, c'est-à-dire que finalement ils ont pu faire jouer les volumes qu'ils ont pris ou non en fonction du contexte de marché et donc bénéficier d'une forme de sécurité dans des phases où les prix étaient plus élevés et au contraire finalement s'en délester quand les prix étaient plus bas pour rester sur le marché. Donc pour eux ça a été finalement assez sécurisant avec une asymétrie par rapport à EDF qui finalement était de l'autre côté de cette position-là. C'est essentiellement ça que ça a fait. Je
pense. Sachant que ce sont les fournisseurs alternatifs qui ont gagné la bataille juridique qui les opposait à EDF, puisque la décision finale a donné raison aux alternatifs qui demandaient l'annulation de leur contrat lié à la baisse de la demande de la crise sanitaire. Quel est votre regard sur cette décision, Jacques Percevoix?
Alors d'abord, la CRE avait dit que c'était EDF qui avait raison. Le Conseil d'État a confirmé que c'est EDF qui avait raison. Simplement,
la CRE, c'est le Conseil de régulation de l'énergie.
La commission de régulation de
l'énergie. Voilà, la commission.
Simplement, certains producteurs, certains fournisseurs alternatifs sont allés devant le tribunal de Paris, mais pour d'autres motifs, parce qu'il existait dans le contrat, je dirais le cadre, qu'il y ait certains fournisseurs à EDF. Il existait un article, il s'appelle l'article 10, dans lequel il était, à mon avis, mal ficelé. Et donc, ça permettait, en quelque sorte, de justifier la force majeure. Parce que, pour invoquer la force majeure, il faut des conditions exceptionnelles. L'article 10, à mon avis, était très mal rédigé. Et donc, la force majeure pouvait s'appliquer quasiment si la situation n'était pas normale. Auquel cas, évidemment, on trouve toujours des situations qui ne sont pas normales.
La question, c'était est-ce que la crise sanitaire était un cas de force majeure ou est-ce qu'il fallait plutôt un problème dans l'une des centrales nucléaires, par exemple?
Oui, non, mais alors, il se trouve que je crois que le tribunal de Paris a donné raison cette fois aux alternatifs, mais en revanche, je crois que c'est toujours en appel et je ne suis pas sûr que la cour d'appel ait tranché dans cette affaire. Mais il faudra probablement revoir ce genre d'article.
Alors, je crois que la cour d'appel a validé l'annulation des contrats. Alors, c'est un sujet important, cette rivalité entre EDF et ses concurrents. Il y a un autre objet de litige que vous avez évoqué, Anne de Bréjas, ce sont les tarifs réglementés de vente. Je vous propose d'écouter à ce sujet Xavier Caillitucoli, le PDG de Direct Energy, un acteur de l'électricité et du gaz qui a depuis été racheté par Total. C'est un extrait d'une interview réalisée par Les Échos en 2016.
Nous sommes en concurrence avec un tarif réglementé qui est fourni à 90% des Français. 90% des consommateurs d'électricité, des résidentiels, sont encore au tarif réglementé chez EDF. Donc, si ce prix est maintenu à des niveaux artificiellement bas, ce qui était le cas, eh bien, notre espace concurrentiel, l'espace, ce prix avec lequel on est en concurrence, il est plus difficile d'être très compétitif par rapport à ce prix-là. Donc là, ce qu'a dit le Conseil d'État en l'occurrence, c'est que ces prix étaient artificiellement bas. Ils avaient été maintenus pour des raisons politiques, voire politiciennes, à des niveaux trop bas. Le Conseil d'État a dit, ce n'est pas normal. Il faut prendre un arrêté rétroactif. Dans nos pays voisins, là où il n'y a plus de tarifs réglementés, le prix n'est pas forcément plus élevé qu'ici. Il reflète l'économie du parc de production national des différents pays. Si on prend le gaz, tout le monde est à égalité en matière de gaz. Il y a peu de pays en Europe qui produisent du gaz, à part dans le nord de l'Europe. Eh bien, là où il n'y a pas de tarifs réglementés, les prix du gaz sont inférieurs à là où il y en a. En France, il y a encore un tarif réglementé pour les clients résidentiels. En Allemagne, il n'y en a pas. Les Allemands payent leur gaz moins cher que les Français. Donc oui, les prix de l'énergie sont trop politisés en France. Il est temps de faire confiance à la concurrence qui est au final positive pour le consommateur.
Les prix de l'énergie sont trop politisés en France, Anne de Bréjas?
Mais, enfin, en fait, quand on parle de prix, les prix sont liés aux coûts. Hein. À la fin, il faut que tous les coûts du système soient payés, soit par la facture, soit par l'impôt. En général, c'est par la facture. C'est comme ça que les tarifs réglementés ont été calculés historiquement. Donc, c'est pas vrai qu'ils étaient trop bas. Il nous dit trop bas. Il faut rappeler que en 2006 ou 2007, seuls les clients d'entreprise n'avaient plus de tarifs réglementés. Donc, ils sont sortis des tarifs réglementés. Ils ont été sur les prix de marché, qui, comme rappelait Jacques Généreux, fluctuent énormément, donc ne représentent absolument rien. Ils sont retrouvés sur les prix de marché, ceux-ci ont triplé, et donc ils sont revenus voir le législateur en disant « Écoutez, notre prix de l'électricité est devenu tellement important qu'on va être obligé de délocaliser et de fermer fermer les boutiques ». Donc des tarifs réglementés ont été remis en place, le tarif de retour qu'on appelait Tartam, avec 20 ou 30% de pénalité quand même par rapport aux tarifs historiques. 80% des clients sont revenus et donc les fournisseurs historiques ont attaqué en disant c'est de la concurrence déloyale, vous comprenez. Mais dans les faits, ce que font ces fournisseurs quand ils disent on fait concurrence à EDF, encore une fois, ils ne font rien. Ils font acheter et vendre. Donc comment voulez-vous qu'ils proposent quelque chose de moins cher? Et d'ailleurs, c'est ce que dénoncent les associations de consommateurs. C'est simplement impossible de proposer moins cher. Et quand ils disent les Allemands paient leur gaz, je sais pas, ils payent pas leur gaz, ils payent leur électricité, qui a un coût moyen, encore une fois, de l'électricité. La France avait l'un des prix les moins chers en Europe à l'époque du monopole. Aujourd'hui, on a des prix extrêmement fluctuants. Encore une fois, c'est dénoncé par les associations de consommateurs. Et je pense qu'il faut revenir un peu aux réalités, c'est-à-dire comment on fait baisser la facture quand on fait augmenter les coûts. J'aimerais bien ensuite qu'on revienne sur ces augmentations de coûts.
Alors, ces tarifs réglementés de vente, en l'occurrence, vont disparaître pour la majeure partie des clients professionnels le 1er janvier 2021. Alors ça, c'est une bonne chose pour les fournisseurs alternatifs, mais peut-être un peu moins pour les consommateurs, Jacques Percebois.
Alors d'abord, il faut mentionner que les tarifs jaunes et verts, les tarifs pour les gros industriels ont disparu, ne subsistent que le tarif bleu qui concerne le secteur domestique et les petits professionnels. Bon, ce que demande Bruxelles, c'est qu'en effet, il n'y ait que le secteur domestique qui puisse en profiter, première chose. Deuxième chose, même un ménage peut parfaitement renoncer aux tarifs réglementés de vente, au TRV, comme on dit, et aller vers la concurrence. Et d'ailleurs, certains l'ont fait, puisqu'aujourd'hui, il y a 25% du volume d'électricité acheté par le secteur domestique qui est acheté hors tarifs réglementés de vente. Hein. Donc, c'est pas complètement négligeable. Ils peuvent très bien choisir un fournisseur qui peut leur vendre, d'ailleurs, l'électricité un tout petit peu moins cher. En général, ils gagnent un centime et encore, hein, bon, par kilowattheure, c'est très modeste. Hein. Donc, ils peuvent très bien aller à la concurrence et revenir d'ailleurs aux tarifs réglementés de vente. Ce que veut Bruxelles, c'est que les professionnels n'aient plus accès à ce tarif. Ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au départ, on a d'ailleurs été obligé à certains moments d'augmenter, ça a été dit tout à l'heure, d'augmenter le tarif réglementé de vente pour que la EDF n'ait pas un avantage comparatif par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire que, si vous voulez, le paradoxe, c'est que la concurrence fait que parfois il faut augmenter le TRV pour que EDF n'ait pas un avantage sur ses concurrents. N'oublions pas aussi que l'AREN a été mis en place de façon transitoire. D'ailleurs, ça doit s'arrêter et c'est là l'un des problèmes. Ça doit s'arrêter en 2025. Donc l'AREN a été mis en place en attendant que les alternatifs puissent créer de nouvelles centrales. Parce qu'à l'époque, on pensait la chose suivante, l'électricité, la demande va continuer à monter, il faudra donc de nouvelles centrales. Dans une période transitoire, on permet aux alternatifs, c'est-à-dire on permet aux concurrents d'EDF d'acheter de l'électricité nucléaire, mais petit à petit, ils vont construire des centrales pour produire leur propre électricité et on fera de la concurrence au niveau de la production. Ils ne construisent pas de nouveaux moyens de production. Pourquoi ils n'en construisent pas? Un, parce que la demande n'a pas augmenté comme on le prévoyait, elle a augmenté beaucoup moins, elle est même stabilisée. Et deux, parce qu'ils ont plutôt intérêt à acheter de l'électricité nucléaire à bas coût plutôt que de s'amuser à se lancer dans la production alternative.
Alors justement, est-ce qu'il faut en finir avec l'AREN aujourd'hui? C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il faut tout simplement supprimer ce mécanisme en estimant qu'EDF a déjà perdu beaucoup de clients, Quentin de Rumeau? Ou est-ce que, au contraire, EDF pourrait accepter de vendre aux fournisseurs alternatifs une plus grosse quantité de TWh en échange d'une hausse du prix de vente?
Moi, je serais tenté de dire que la question n'est pas tellement sur une question qui est centrée purement sur la fourniture, mais plutôt sur les perspectives du système électrique au global. Une des problématiques de l'AREN dans sa forme aujourd'hui, c'est surtout que c'est un frein à une juste rémunération du parc électronucléaire. Et on a une problématique de valorisation de ce parc à moyen et à long terme si dans les années qui viennent, on cherche à en construire de nouvelles unités. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir un raisonnement industriel qui est de travailler correctement sur la rémunération du parc électronucléaire français. Après, la question de comment est-ce qu'il est distribué, comment est-ce que cette rémunération est redistribuée dans les factures. L'AREN a été un vecteur, il peut y en avoir d'autres. Voilà, on est plus sur une question technique. Je pense que le vrai sujet, c'est surtout la rémunération du nucléaire.
Alors, en tout cas, face à ces nombreuses difficultés, le projet Hercule proposé par le gouvernement prévoit de scinder EDF en trois entités. Quels sont les risques et les atouts d'une telle scission? On en parle dans un instant.
De lune, mouche léthargique. Je zone sur le canapé.
Telle une mouche léthargique. Je zone sur le canapé.
Je vide le paquet de chips.
J'affine le fromage râpé.
Mon doigt explore ma narine.
C'est l'événement de la journée.
Il faudrait qu'on nous chante.
Les piles, le duo de M et de Vanessa Paradis sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Suite de notre discussion sur l'avenir d'EDF et du marché de l'électricité en France, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Percebois, professeur à l'université de Montpellier, d'Anne Debréjas, qui est porte-parole de Sud Énergie, et Quentin Derumeau, directeur du département énergie et environnement du cabinet de conseil SIA Partners. Alors si aujourd'hui on ne peut plus imaginer notre vie sans électricité, c'est grâce à un certain Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique.
Dites-moi, j'aurais quand même une petite question.
Je suis sûr que vous en avez plusieurs.
Je me demande ce qu'on ressent en voyant l'ampoule.
Difficile à dire, en fait. Il est impossible de décrire ce que l'on ressent parce que la chose était impossible. Des années de travail, 10 000 filaments différents. Quand nous avons placé le fil dans l'ampoule, comme toujours, nous avons fait nos paris. Puis le générateur s'est mis en marche et l'ampoule s'est mise à rougeoyer. Nous nous attendions à un nouvel échec. Mais il s'est passé quelque chose. Vous voyez, nos meilleurs filaments n'avaient duré que 10 minutes. Et celui-ci approchait les 20. Alors les gars ont commencé à se féliciter. Puis 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, tout le monde s'est mis à hurler. Rappelez-vous, nous n'avions jamais dépassé les 10 minutes. Les gars se sont mis à grimper au mur en s'arrachant les cheveux. Parce qu'on voyait l'impossible. 7 heures. 8 heures. 9. Nous étions silencieux en arrivant à 10. Nous étions assis autour de cette ampoule brillante, ivre de notre magie, la fixant comme si c'était, je ne sais pas, l'enfant Jésus jouant du Mozart. Après 13h30, le verre s'est brisé et j'ai su. Le monde ne serait plus jamais le même.
La découverte d'Edison, racontée dans Les Pionniers de l'électricité, le film d'Alfonso Gómez Rejón, sorti en 2017. C'était il y a 140 ans, en 1879. Aujourd'hui, EDF fait face, on l'a vu dans la première partie de cette émission, à un certain nombre de difficultés et le gouvernement subit la pression de la Commission européenne qui veut une plus grande ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. C'est dans ce contexte qu'a été élaboré le projet Hercule. Jacques Percevoir, rappelez-nous peut-être en quoi consiste ce projet de scission d'EDF?
Alors pour l'instant, c'est un projet qui est en discussion avec Bruxelles et disons rien n'est acté. Mais ce qui est public, c'est l'idée qu'il y aurait une scission d'EDF en 2, voire 3 pôles. Alors les deux principaux pôles, c'est d'un côté EDF bleu qui regrouperait l'électricité nucléaire, la production d'électricité nucléaire et le réseau de transport d'électricité dont EDF détient encore 50% du capital, 50,1% du capital. De l'autre, il y aurait EDF Vert qui regrouperait toutes les autres activités, c'est-à-dire la production d'électricité renouvelable, qui d'ailleurs est réglementée, régulée, dont le prix est régulé, la production thermique faite avec du gaz, ce sont des centrales à gaz, également la production hydraulique, sauf si on met l'hydraulique dans une troisième entité, ce qui est une alternative, et puis bien sûr la fourniture de l'électricité, qui est une activité commerciale, les services liés à cette fourniture, et enfin Enedis, c'est-à-dire le distributeur d'électricité. L'idée étant que le pôle bleu serait totalement public, hein, ce serait un peu une sorte d'infrastructure essentielle. Si vous voulez, on ferait avec le nucléaire un peu, je dirais, la même chose qu'avec les réseaux. Hein. Et puis par contre, EDF Vert pourrait être en partie privatisé. L'objectif, c'est ça, il ne faut pas se voiler la face.
Alors justement, l'objectif
c'est privatiser une partie d'EDF Vert.
Voilà, l'objectif du gouvernement, Anne de Bréjas, c'est en quelque sorte de déshabiller Paul pour habiller Pierre, c'est-à-dire se séparer de certaines activités pour concentrer les moyens sur la filière nucléaire.
Je ne sais pas si c'est pour concentrer les moyens sur la filière nucléaire, mais bon, il apparaît évident à tout le monde que le nucléaire ne peut pas être géré par des intérêts privés, ce qui est une bonne chose de se rendre compte de ça. Apparemment pas non plus sur l'hydraulique, pas sur le thermique. Donc en fait, toute la production se retrouverait côté bleu public et on ne sait pas pourquoi resterait dans la partie verte les énergies renouvelables qui pourtant ont les mêmes caractéristiques. Hein. C'est beaucoup, beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace de les faire gérer par le public que par le privé. Là aussi, c'est très documenté. Ce qui s'est passé avec une émergence privée des énergies renouvelables fonctionne mal et a été très cher.
Et en même temps, le bilan d'EDF dans le domaine des énergies renouvelables, il n'est pas bon, Anne de Bréjas.
Ah, absolument, mais moi je suis pas là pour défendre EDF. EDF a été transformée par l'ouverture des marchés, a été transformée d'une société publique en société anonyme qui est dans une course à la rentabilité financière comme les autres acteurs. Et c'est pour ça que quand on parle de réorganiser l'entreprise, en fait, on réorganise le système électrique. Bon, alors qu'il faille revoir la rémunération du nucléaire, c'est une évidence, mais au-delà, il faut revoir la rémunération de l'ensemble des moyens de production, puisque aucun des moyens de production n'arrive va se financer sur les marchés. Et ce que dit la Commission de régulation de l'énergie aujourd'hui, et ce que dit l'Union européenne aussi, c'est qu'elle a abandonné l'idée de mettre en concurrence la production. La Commission de régulation de l'énergie dit qu'il n'y a pas eu de concurrence, l'ARENH n'a pas fait émerger de concurrence dans la production, et il n'y aura pas de concurrence dans la production. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on est en train de continuer à essayer de mettre en concurrence, encore une fois, une activité qui représente 4% du total des coûts et qui n'existait pas.
Donc,
excusez-moi, mais ce que ça va entraîner, c'est une disparition des tarifs réglementés, donc plus d'égalité de traitement entre usagers. On a déjà vu que les factures en moyenne ont augmenté de 60%, c'est ce que documente l'INSEE. Alors tout n'est pas lié à la mise en concurrence, mais une partie quand même. Il y a aussi quand vous écoutez les associations de consommateurs, ils sont très critiques, y compris ceux qui sont pour la libéralisation de tout un tas d'autres systèmes. Ils disent les seules innovations qu'on a vues, c'est des démarchages très agressifs, souvent frauduleux. Il y a des condamnations qui se sont multipliées, qui sont dénoncées par le médiateur de l'énergie également, Engie, Eni, etc. Un moindre accompagnement des clients précaires avec des taux de coupure qui augmentent énormément.
Mais on voit bien que c'est une bataille qui se joue un petit peu entre le public et le privé. Ici, Quentin de Rumeau, derrière ce projet de créer un pôle Azur, c'est-à-dire d'ouvrir les concessions hydrauliques d'EDF à des capitaux privés, c'est l'idée que le privé serait plus apte à développer les renouvelables. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
Alors, pour Azure, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est chercher à se protéger de l'hypothèse d'une mise en concurrence des concessions. Et le cas des concessions hydrauliques est très particulier parce que c'est un dossier d'ailleurs sur lequel la France est relancée régulièrement et finalement repousse l'échéance aussi assez régulièrement parce que finalement la ressource qu'on manipule c'est de l'eau parce que vous avez des questions de coordination assez complexes d'une installation à l'autre et aussi plus largement sur la gouvernance de l'eau autour des comités de bassin versant, puisque l'eau ne sert pas, comme on le sait tous, à la production, uniquement à la production d'électricité. Donc, pour moi, le sujet n'est pas tellement... Azur, on ne cherche pas à faire rentrer des capitaux privés plus spécifiquement là-dessus, on cherche plutôt, au contraire, à s'arranger avec les principes de mise en concurrence. Sur la question de la concurrence plus largement, il y a quand même, un peu comme pour le cholestérol, de la bonne et de la mauvaise concurrence. La réglementation du prix, de la fourniture d'électricité. On en parle depuis tout à l'heure que sous l'angle du prix, mais il faut se souvenir que le tarif réglementé, il a plein d'autres attributs. Il s'applique à un site, il a une durée, il a une reconduction tacite. C'est une façon de calculer le prix qui est particulière. Sur des sites relativement gros ou vis-à-vis d'une clientèle entreprise qui est capable d'être avertie. La concurrence, elle a aussi amené un accompagnement différent vers la prise en compte de la consommation. Elle a amené à inventer des formes contractuelles, à faire de l'innovation contractuelle qui permet une meilleure gestion par l'entreprise, qui permet une meilleure prévisibilité des budgets, qui permet d'avoir une flexibilité un peu différente, et qui va aussi de plus en plus introduire une composante de verdissement. On voit se signer des contrats d'approvisionnement de long terme en énergie renouvelable. Cette concurrence là, elle fait du fournisseur pas juste un acheteur et un expéditeur de factures. Elle fait du fournisseur un accompagnant de ses clients dans la transition énergétique. Mmh. Et ça, c'est possible aussi.
L'une des questions qui se pose, c'est quand même celle de l'avenir d'RTE, d'Enedis. Et il y a un autre scénario qui a émergé. Ce serait celui d'un mariage entre RTE et Enedis. L'objectif, ce serait de créer un géant réseau des réseaux électriques pour piloter la transition énergétique. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, Jacques Percebois?
À mon avis, c'est pas celui qui tient la route dans l'état actuel des choses. Ça aurait une certaine cohérence, parce que mettre RTE dans EDF bleu et Enedis dans EDF vert, ça peut paraître en effet surprenant. Mais il faut bien avoir en tête que EDF a un problème d'endettement. EDF aujourd'hui a 41 milliards de dettes. Si on veut faire le grand carénage, il faut le faire pour prolonger certains réacteurs, probablement 32 sur les 56 réacteurs qui subsistent depuis la fermeture des deux réacteurs de Fessenheim, il va falloir trouver 50 milliards. On a commencé d'ailleurs à le faire, il ne faut pas les trouver d'un seul bloc, hein, mais c'est étalé dans le temps. Ensuite, si on veut faire de nouveaux réacteurs, et on parle, et tout ça est lié, si on veut faire les 6 EPR qui sont plus ou moins annoncés, ça va encore coûter 47 milliards d'euros, c'est à peu près le chiffre qui est avancé. Ça veut dire que EDF ne pourra pas tout seul financer cela. Il faut donc une subvention de l'État. Alors, il faut à la fois trouver de l'argent, et la privatisation d'une partie d'EDF vert permettrait de récupérer du cash. C'est ça qu'il y a derrière, en particulier parce qu'Enedis, c'est une entreprise qui apporte beaucoup de cash, hein, c'est relativement rentable. L'autre idée, c'est que au lieu de s'endetter, comme on l'a fait pour le premier grand programme nucléaire, ça a été financé par endettement, notamment sur le marché américain. Aujourd'hui, EDF ne pourrait pas trouver tous ces fonds. Par conséquent, si on veut des subventions d'État, l'idée qu'il y a derrière, et c'est là qu'il y a un lien, je dirais, entre la réforme et puis les nouveaux réacteurs et même avec l'AREN, l'idée c'est bien, ce qui est public, c'est-à-dire l'entreprise EDF Bleu qui produit le nucléaire, pourrait produire un nucléaire qui serait vendu à un prix régulé, qui serait vendu à un prix régulé pour tout le monde, tous les alternatifs, mais aussi EDF Vert. EDF Vert, fournisseur, achèterait le nucléaire à EDF Bleu, comme le ferait Total, comme le ferait Engie, comme le feraient les autres. C'est ça qu'il y a derrière. Et ça réglerait un des problèmes qui apparaît, c'est-à-dire le risque, c'est là, 2025, où il n'y aura plus d'arène, puisqu'en principe, ça s'arrête. Mais si vous arrêtez l'arène en 2025, c'est quand même bientôt, vous allez vous retrouver à la case départ. Parce qu'en 2025, les alternatifs, ils n'auront pas plus de production qu'ils en avaient en 2010, puisqu'ils n'ont quasiment pas investi, à part les renouvelables. Donc ça veut dire qu'il faudrait prolonger le système. Mais si vous donnez 100 TWh aux alternatifs, c'est-à-dire aux concurrents d'EDF, ils gagnent des parts de marché. Quand ils ont gagné des parts de marché, ce qui est le cas aujourd'hui, personne ne le conteste, ils demandent 150 TWh. EDF dit « Ok pour 150, mais pas à 42 euros, 48 euros ». Mais une fois qu'ils auront 150 TWh, ils vont en demander plus. Vous êtes entraîné dans ce qu'on pourrait appeler une spirale de la mort. C'est-à-dire qu'ils vont demander de plus en plus d'arène. Alors il n'y a qu'à sauter le pas et considérer que le nucléaire, si vous voulez, est totalement public. Hein, c'est une infrastructure essentielle publique. Au fond, on considérait que c'est comme s'il y avait 100% d'arène, simplement 100% d'arène, sauf que ce ne serait pas, réservé aux alternatifs, ce serait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'EDF serait un fournisseur comme les autres qui achèterait son nucléaire à EDF Bleu. Alors il y a un risque, il faut voir derrière ça. Le risque, à mon avis, c'est là qu'il existe le risque. Si vous mettez le nucléaire dans une société à part, vous avez le risque de considérer que c'est une façon, de réduire progressivement la part du nucléaire. Vous savez qu'on va déjà la réduire à 50% en 2035. On a déjà fermé les deux réacteurs de Fessenheim. D'ailleurs, si on a des problèmes cet hiver, il ne faudra pas seulement invoquer la Covid, il faudra aussi invoquer le fait qu'on a fermé les centrales de Fessenheim.
Alors justement, Jacques Percebois, je voudrais vous faire entendre, on va continuer cette conversation, mais je voudrais vous faire entendre avant Emmanuel Macron, lors de son déplacement à l'usine Framatome au Creusot, qui s'est exprimé sur le nucléaire, c'était il y a 3 jours, le 8 décembre 2020.
Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. L'énergie nucléaire est l'énergie non intermittente qui émet le moins de CO2. Et donc, si je n'ai jamais été partisan du tout nucléaire, parce qu'il est nécessaire de ne pas dépendre d'une seule source, je crois, et il est toujours assumé, que si nous devons rééquilibrer notre mix énergétique en réduisant la part du nucléaire, l'atome doit continuer à être un pilier de celui-ci pour les décennies à venir. Mais renoncer au nucléaire totalement ou trop rapidement, ce serait ouvrir, comme d'autres pays l'ont fait, des centrales à charbon ou à gaz ou importer de l'énergie carbonée. Et cela, nous nous y sommes refusés.
Voilà le soutien d'Emmanuel Macron à la filière nucléaire française. Ce qu'il faut bien comprendre, Jacques Percebois, c'est que cette réorganisation prévue par le projet Hercule, projet encore en discussion, vous nous l'avez rappelé, cette réorganisation permettrait à l'État de subventionner le nucléaire sans contrevenir aux règles de la concurrence européenne ?
Alors c'est ça l'objectif, à mon avis, qui pour l'instant n'est pas sur la place publique, c'est probablement ça, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas justifier de subvention à des entreprises en situation de compétition. Ça, c'est pas possible. Bruxelles le refuse. Donc, si vous avez un nucléaire qui est considéré en quelque sorte comme un bien commun pour l'économie française et que tout le monde se source sur ce nucléaire, à ce moment-là, vous pouvez justifier de subventionner les nouveaux réacteurs, les fameux 6 réacteurs, si vous voulez. Ce qui est dans les cartons, c'est que sur les 47 milliards dont je parlais, il y en aurait 54% financés par des subventions d'État et le reste financé par EDF qui serait obligé de s'endetter ou de récupérer un peu d'argent en vendant une partie d'EDF vert. C'est ça qu'il y a derrière. Moi, je suis très content qu'enfin on entende les pouvoirs publics dire on ne peut pas se passer du nucléaire. Très bien, mais il faut mettre les actes en accord avec les déclarations parce que on veut quand même réduire la part du nucléaire. Alors pourquoi 50%, hein? Bon, ça, je dirais, c'est des chiffres mythiques, hein. Pourquoi 50, pourquoi pas 75? On était à 75, on est descendu à 71. Pourquoi on veut encore descendre? Si le nucléaire est bien, il n'y a pas de raison de continuer à descendre. Laissons faire les mécanismes, laissons faire les choix des entreprises, laissons les entreprises choisir leurs moyens de production. Mais autoritairement vouloir réduire la part du nucléaire, ça se discute.
Anne de Bréjas, j'aimerais vous entendre là-dessus et aussi sur le fait que certains estiment que l'électricité d'origine nucléaire est maintenant durablement non compétitive et que finalement le projet Hercule, c'est qu'une façon de nationaliser les pertes à venir.
En fait, il va y avoir... Emmanuel Macron s'est exprimé là de manière assez étonnante. On ne sait pas si c'est en tant que président ou un avis, parce qu'il y a un processus qui est en cours à RTE qui élabore des scénarios à long terme, c'est-à-dire à 2050, pour la puissance publique, pour l'État, avec à la clé, il y a des scénarios qui donnent la sortie complète du nucléaire à 2050, et puis il y a d'autres scénarios qui donnent une part qui reste à 50% du nucléaire. Et c'est à l'issue de ces scénarios, qui ont fait l'objet d'une large concertation, que devrait être prises les décisions, et l'État avait rajouté, et on attend de voir si Flamanville est en service. Donc je trouve ça un peu étonnant de cette décision. Donc on verra bien ce qui se passe. Moi, je voulais revenir quand même sur la question des coûts, parce que quand on dit c'est plus cher ou c'est moins cher le nucléaire et il faut mobiliser 46 milliards, il faut voir que les coûts dans le nucléaire, mais c'est vrai aussi dans les énergies, dans le solaire ou dans l'éolien, c'est pour 70 à 80% des coûts financiers, parce que les coûts, c'est essentiellement des investissements, donc des coûts de construction sur le très long terme. Et ça, c'est la Cour des comptes anglaise, par exemple, sur Hinkley Point, elle disait si un taux de financement, donc si l'État finance à un taux d'emprunt public de 2%, alors on arrive à 30 euros du mégawattheure le coût de production. Si on s'adresse aux marchés qui sont plutôt à 9%, on passe à 100 euros du mégawattheure. Vous voyez un petit peu ce que ça change, rien que le niveau de taux d'emprunt qu'on peut avoir. Et donc il y a une seule façon de baisser, mais vraiment significativement, les prix, bien au-delà de ce qu'on peut essayer de récupérer sur des gains sur le personnel, par exemple, c'est de dérisquer l'activité. Et donc un monopole public avec une planification à long terme, avec l'État qui peut lui-même emprunter, ça donne à la fin des coûts, mais sans commune mesure avec par rapport à un recours à des acteurs privés qui vont emprunter sur le marché, qui vont se financer sur le marché, puis qui vont réclamer une rentabilité plus importante.
Donc sans cette diversification qui est la marque actuelle d'EDF, ça va coûter beaucoup plus cher, c'est ça que vous nous dites, pour l'État?
Non, ce que je dis, c'est que quand on investit en ayant recours à l'investissement privé, ça coûte de l'ordre de pratiquement deux fois plus cher, que ça soit du nucléaire ou des énergies renouvelables, que si on investit avec de l'investissement, avec l'emprunt public à des taux très bas, autour de 2%. Alors on peut discuter sur le 2%, mais voilà. Donc aujourd'hui, il faut absolument que le nucléaire soit financé par le public, mais les énergies renouvelables, c'est pareil. On a surpayé, et la Cour des comptes le dit, on a surpayé le développement des énergies renouvelables jusqu'à maintenant, donc il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on met dans la partie verte, donc dans la partie privée, les énergies renouvelables. Et je pense qu'on peut se poser exactement la même question sur Enedis. On s'apprête quand même à mettre le réseau de distribution, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, le réseau de distribution, aux mains d'acteurs privés.
Alors justement, quels sont les risques, Anne de Bréjas, d'une telle opération? Il y a un risque que les réseaux tombent aux mains de groupes étrangers, par exemple, avec l'influence que ça peut avoir sur la distribution d'électricité directement?
Oui, c'est des biens qui sont quand même éminemment stratégiques. Hein. Celui qui a la main sur le réseau de distribution, il a la main pour couper toute une zone, toute une région. Donc ça peut tomber effectivement à la main d'opérateurs privés, d'opérateurs étrangers. On sait que les Chinois, par exemple, sont très intéressés par les réseaux européens. Mais ça peut aussi tomber aux mains d'acteurs privés, comme Total, comme Engie, ou comme peut-être EDF, s'il prend cette voie-là. Et ça ne sera pas l'intérêt général qu'il y aura derrière. On mettra dans les mains d'un acteur privé les clés pour faire du chantage comme il veut sur la puissance publique.
On entend bien toutes les critiques que soulève ce projet Hercule. Si on voulait le sauver, Quentin de Rumeau, est-ce qu'il y a des aspects qui vous paraissent positifs dans ce projet qui est vécu par beaucoup comme un démantèlement du producteur historique qu'est EDF?
Déjà, je voulais réagir à ce que disait Madame de Bréjas. Je trouvais que c'était un peu excessif, notamment sur l'emploi d'Enedis. L'activité d'Enedis, elle est quand même très encadrée, régulée. Enedis est en concertation en permanence avec des collectivités qu'elle sert. Je pense qu'il faut, voilà, il y a plein d'activités qui ont des actionnaires diversifiés et sans que ça pose de difficultés particulières. Pour moi, Hercule, si c'est surtout, enfin, en fait, si, je pense qu'il faut pas être arc-bouté sur la nature du projet. Si la vraie question, c'est est-ce que ça permet d'avoir une feuille de route industrielle qui tient la route dans le temps, d'avoir une condition et des conditions de rémunération correctes de ce De l'ambition qu'on peut avoir sur nos aspects industriels.
Sur le fait que on a une privatisation partielle, alors encore une fois, encore en projet, mais d'une des filiales les plus rentables d'EDF, c'est-à-dire Enedis, et en même temps on nationalise les pertes à venir, ça c'est le point de vue de certains, c'est-à-dire on nationalise l'électricité d'origine nucléaire qui pourrait être durablement non compétitive. Ça pose tout de même un certain nombre de problèmes, Quentin de Rumeau.
Alors, il y a beaucoup de présupposés dans votre question. Je suis pas sûr qu'il y ait des pertes à venir forcément sur le nucléaire ultérieur. Il apporte un service qui est évident, qui est abondant, qui est nécessaire pour faire une véritable transition bas carbone. Donc je suis pas d'accord sur le fait qu'on va chercher à nationaliser des pertes. Et après, on a aussi une façon de financer qui est un peu différente. On va avoir des réseaux et des activités commerciales ou des activités de services qui ont des horizons de financement, une activité qui est plus atomisée, qui est quelque chose qui est beaucoup plus facile à financer par le marché, en fait. Et l'État ne pourra pas tout financer.
Jacques Percebois.
Écoutez, de toute façon, si le nucléaire n'était pas rentable, les alternatives ne seraient pas là à demander plus d'AREN, puisque par définition, ils ont accès au nucléaire dans de très bonnes conditions. Donc aujourd'hui, le nucléaire historique, il est rentable. C'est même sa rentabilité qui pose problème aux concurrents. Alors maintenant, le nucléaire nouveau, c'est autre chose. Il coûtera plus cher, c'est sûr. Mais il faut voir que si vous faites autre chose que du nucléaire, si vous faites par exemple des centrales thermiques qui fonctionnent avec des énergies fossiles, vous paierez une taxe sur le CO2, cette taxe elle va continuer à monter. Vous aurez également des coûts, il faudra également investir dans des solutions alternatives. Alors ou vous laissez faire complètement le marché et à ce moment-là vous n'imposez plus l'AREN, vous faites l'AREN à zéro et vous dites chacun fait sa production comme il l'entend et puis on voit ce que donne la concurrence, si le nucléaire n'est pas rentable on ferme. S'il est rentable, alors le problème c'est s'il est rentable et que ça permet à EDF de continuer à gagner des parts ou à conserver des parts de marché, à ce moment-là la commission de Bruxelles va dire « Ah oui, mais en France le marché n'est pas ouvert, donc si vous voulez on est en pleine contradiction ». En fait le gros problème, c'est qu'on veut introduire de la concurrence dans un secteur, le secteur de l'électricité, où une grande partie de l'activité, par la force des choses, par les lois de la physique et par les contraintes industrielles, ce sont des activités régulées qui doivent être régulées.
Et qui doivent relever du monopole naturel.
Ils doivent relever alors du monopole naturel, une partie du monopole naturel. La production est ouverte à la concurrence. Vous avez le droit de construire des centrales à gaz si vous voulez en construire. Bon, il n'y a pas de problème. Simplement, aujourd'hui, plutôt que de construire des centrales à gaz, on ne va pas construire des centrales à charbon dans l'état actuel des choses. Donc, on va construire des centrales à gaz ou d'autres solutions, des renouvelables. Mais même les renouvelables sont régulées. Aujourd'hui, ceux qui se lancent dans la production d'électricité renouvelable, ils bénéficient de tarifs qu'on appelle des prix d'achat garantis, bénéficient de tarifs. Et donc le surcoût, d'ailleurs, par rapport au prix du marché, il est financé par des taxes. Une partie financée par le consommateur d'électricité et une partie, ce que beaucoup de gens ignorent, financée quand vous payez de l'essence. Quand vous achetez de l'essence, une partie de la TICPE, taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, une partie de cette taxe sert à financer le surcoût des renouvelables. La Cour des comptes s'en est émue, d'ailleurs, parce qu'on a signé des contrats tellement rémunérateurs qu'aujourd'hui, on veut revenir en arrière, disons, en rendant rétroactif, en quelque sorte, le prix du passé.
On voit bien le dilemme auquel fait face aujourd'hui EDF et l'État français. C'est une question extrêmement complexe. On arrive à la fin de cette discussion. Je voudrais peut-être vous entendre en conclusion, Anne de Bréjas, sur le fait que sur le plan symbolique, il faut se rappeler que EDF, c'est un modèle hérité de la Seconde Guerre mondiale. On en parlait au tout début de cette émission. C'est un modèle qui a connu de grands succès et qui pourrait aujourd'hui disparaître, et cela peut-être par ordonnance au début de l'année 2021. C'est ce qu'a dit le journal Context. Tout dernier mot sur les enjeux d'emploi et de souveraineté qui existent derrière ce projet, Anne de Bréjas, très rapidement.
Oui, je pense que vous l'avez dit, on est passé d'un système qui fonctionnait à un système qui ne fonctionne plus. On a mis une rustine qui est sur un système qui ne pouvait pas marcher, qui est l'AREN. Maintenant, on s'apprête à remettre une autre rustine. Là, on est face à une crise climatique majeure. On sait que le vecteur électrique, le système électrique, est un élément clé de cette transition énergétique, qu'il va falloir faire des investissements énormes dans le très court terme. Le GIEC dit c'est la survie de l'humanité qui est en jeu et qu'il faut agir maintenant. Donc, il faut planifier, il faut organiser. On sait bien que ça ne fonctionne pas. On a un retour d'expérience suffisant pour montrer que ça n'a pas permis de développer les énergies renouvelables. Ça ne permet pas non plus de développer les travaux d'isolation. Maintenant, il faut changer de règle et repartir sur un modèle public, planifié, organisé, qui permette d'arriver à ça, et pour beaucoup moins cher.
Et on va continuer à suivre évidemment ces négociations de très près. Un grand merci à tous les trois, Jacques Percebois, Anne Debréjas et Quentin Derumeau, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Un grand merci également à l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne Depelchin, à la technique aujourd'hui Alex Dang. La semaine prochaine, nouvelle série consacrée à la belle époque vue par ses écrivains. On parlera de la bourgeoisie avec Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, des grandes innovations avec Jules Verne et des oubliés du progrès avec la romancière Marguerite Audoux. D'ici là, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.